L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaël Bâtard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.
Mes superbes pépites, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission L'Ayurveda Sourire. Je suis vraiment, vraiment ravie de vous retrouver ce soir pour vous faire découvrir de nouveaux horizons, des horizons cosmiques, totalement en résonance avec l'entièreté de ce que nous sommes, avec l'Ayurveda et aussi avec les événements planétaires actuels. Nous allons sillonner sur le chemin d'une autre science védique, une sœur de l'Ayurveda qui est très très méconnue en France. Nous allons découvrir le Jyotish, communément appelé astrologie védique. Alors le Jyotish, ou science de la lumière, est un Vedanga, donc c'est une des six branches des Védas. C'est une science qui est très utilisée en Inde, qui donne des indications sur l'influence des planètes dans nos vies, qui guide pour choisir les moments opportuns pour effectuer ou pour mettre en place certaines choses, certaines actions, pour les événements importants de la vie aussi, comme les mariages par exemple, et même pour la compatibilité amoureuse. Donc c'est vraiment une science en fait qui nous aide à comprendre les blocages, mais qui nous aide aussi à évaluer l'impact en fait, l'impact et la vibration que les planètes ont sur notre être, en nous donnant des éclairages sur notre santé, sur nos prédispositions même d'ailleurs à certains troubles, et qui nous donne des clés pour notre rétablissement holistique, donc vraiment du corps, de l'esprit et de l'âme. Pour parler de cette science passionnante, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir un confrère. Il est praticien en Ayurveda et Jyotishi. Il a été formé dans la pure tradition de l'Inde par le docteur Vasant Lad, qui est un des pionniers en fait de l'Ayurveda en Occident. Il est lui-même médecin ayurvédique et astrologue védique. Donc il lui a vraiment transmis son savoir de maître à disciple. Et donc aujourd'hui, mon invité accompagne des personnes sur tous les sujets à travers le monde avec l'astrologie védique. Bonsoir Raphaël Kalef.
Bonsoir Gwenaëlle et merci pour cette présentation qui a bien présenté et tissé les liens entre l'Ayurveda que tu pratiques et le Jyotish, astrologie védique, effectivement. Alors Jyotish en sanskrit veut dire science de la lumière, l'Ayurveda veut dire science de la vie, et c'est une des belles choses que nous amène l'Inde en général et la culture védique en particulier, que cette synergie, cette chorégraphie qui existe entre ces deux sciences que tu as bien présentées comme deux sœurs, c'est-à-dire la science de la vie et la science de la lumière. Puisque d'une certaine manière, dans la culture védique, la vie est lumière et la lumière, c'est la vie.
Mais oui, d'ailleurs, on dit que c'est deux piliers, en fait, hein, le Jyotish et l'Ayurveda dans les sciences védiques. C'est les deux grands piliers.
Effectivement, les deux grands piliers. Et moi, je ramène ça à une présentation qui permet de comprendre un peu l'approche que la culture védique a de l'être humain. C'est qu'un être humain, c'est, première chose, quatre corps. Le corps physique, le corps énergétique, le corps mental ou psychologique et le corps karmique, c'est-à-dire le corps subtil ou le corps planétaire. L'Ayurveda, la science de la vie, s'est de tout temps occupée du corps physique et du corps énergétique. Il y a des soins énergétiques en Ayurveda qui sont très proches de ce qui est connu ici sous la forme de l'acupuncture ou de la pranathérapie ou des soins énergétiques. Et puis, le Jyotish s'est toujours occupé davantage du corps mental, de la psychologie, des émotions, et puis de ce qu'on appelle le corps planétaire ou karmique, c'est-à-dire l'idée, là c'est le deuxième modèle que nous propose l'Inde, que chaque personne est un microcosme de l'univers, une création tout à fait unique, et que, en quelque sorte, nous sommes un univers miniature, en particulier parce que nous portons en nous les 9 énergies planétaires qui constituent notre notre énergie, notre destinée, qui explique la manière dont nous réagissons aux événements, à la vie, et aussi la manière dont nous agissons, nous allons de l'avant, les buts que nous nous fixons, les forces, les faiblesses. Mmh. Évidemment, dans le modèle de l'Inde, tout ça est rapporté à l'idée qu'un individu, c'est une succession de vies et que nous amenons, par exemple, avec nous des choses que nous avons développées au cours d'une vie passée. Mais d'une manière générale, la bonne nouvelle, c'est aussi que cet équilibre ou ce kaléidoscope d'énergie que nous portons en nous, ce n'est pas fixe. C'est quelque chose sur lequel, justement, de la même manière que quand on apprend l'Ayurveda, on apprend à s'occuper de sa nutrition, on apprend à s'occuper de ses organes, de sa santé, à prendre ses choses en main. Le Jyotish est un outil qui est là pour chaque être humain, qui n'est pas le privilège simplement de l'astrologue. C'est l'idée de trouver des outils et de donner des outils très concrets, très pragmatiques, on va en parler ensemble, pour arriver à gérer ces neuf forces planétaires qui sont notre kaléidoscope personnel.
Ah oui. Oui, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, mais plein de corrections et plein de possibilités. Mais justement, alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que le Jyotish ? Parce qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui n'ont jamais même entendu ce mot et qui ne savent pas. Donc, ils se disent science de la lumière, astrologie védique, ok, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est vraiment l'idée que... Un être humain, justement, un autre modèle que nous propose l'Inde, a une vie dans laquelle déjà chaque personne doit trouver son dharma. Dharma, c'est ce mot sanskrit qui désigne la vocation, la destinée. Ce n'est pas la profession. On a tendance en Occident à assimiler le dharma et la profession. Non, la profession peut être un reflet de ma destinée. Mais chaque personne, on peut l'appeler mission de vie, on peut l'appeler destinée, on peut l'appeler d'une ensemble de manières, chaque personne doit comprendre ce qui donne sens à son incarnation. Et donc, ça a toujours été le sens d'une lecture astrologique telle qu'un Indien va le demander à un astrologue védique, un Jyotishi, c'est vraiment de comprendre le sens de cette incarnation. En réalité, dans la manière de penser védique, une vie humaine a quatre buts, dharma, artha, kama et moksha. Dharma, c'est la vocation, c'est le premier but, c'est de comprendre ce qui fait le sens de ma vie et qui donne sens à mon existence quand je me lève le matin. On pourrait dire à l'inverse, un symptôme de quelqu'un qui n'a pas trouvé son dharma, c'est ce qu'on appelle la dépression. Mmh. La dépression, du point de vue du Jyotish, c'est adharma, c'est l'absence de dharma, soit temporairement, soit de manière chronique, et dans certains cas, on pourrait dire, dans des cas extrêmes, les personnes qui ont des tendances suicidaires sont évidemment des personnes qui n'ont pas trouvé leur dharma. Tout le monde n'a pas pour vocation de changer la planète, ni d'être Mère Teresa ou Nelson Mandela, mais quand même, le Jyotish regarde l'existence humaine sans notion de valeur. Qui qu'on soit, on a chacun d'entre nous, comme je disais, est une création tout à fait unique de l'univers qui est tout autant valable que quelqu'un qui serait roi ou président d'un pays. Il n'y a pas de jugement de valeur. Ensuite, artha, ça veut dire la réussite, le deuxième but de la vie. Il est normal, quand on a trouvé sa destinée, de vouloir en recueillir une réussite, une reconnaissance de mon action dans le monde ou de ma profession. Et artha veut aussi dire richesse, c'est-à-dire une rémunération qui soit à la hauteur de ma compétence. Kama, qui est devenu célèbre avec Kama Sutra, mais Kama Sutra, ça veut dire justement les sutras du désir et de l'assouvissement du désir. Ça veut dire tous les désirs que nous portons en nous et que nous avons envie de vivre dans cette vie à partir du moment où ça ne consiste pas à faire du mal à d'autres personnes. Et puis moksha, c'est important aussi, la libération. Littéralement, dans un contexte hindou ou bouddhiste, c'est la libération du cycle des renaissances, mais on va dire dans un contexte occidental, dire qu'il y a des choses, des souffrances, des blocages que je porte en moi, et que, on va dire, un compte en banque bien rempli ne suffit pas à résoudre. Et ça aussi, c'est une partie essentielle de la vie. Donc le Jyotish est là pour analyser ces quatre buts et analyser pour chacune de ces parties de mon existence, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quel est le travail que j'ai à accomplir, où sont les blocages et surtout comment vais-je faire pour surmonter ces blocages. Tout ne peut pas être surmonté. Je veux dire, de manière très pragmatique, je fais 1m69, si je voulais être basketteur professionnel aux États-Unis, ça va être impossible. Mais l'essentiel, c'est de comprendre, évidemment, avec du travail et de l'énergie. Le jyotish est un système énergétique. En quelque sorte, ce qui relie la pensée et la matière, c'est l'énergie. Et les planètes sont des énergies. Et ces énergies, nous les portons en nous. Donc le jyotish, c'est une très vieille science qui remonte, on va dire 5000 ans, mais ça encore, c'est de l'estimation, ça a toujours existé dans la culture indienne et védique, qui est en quelque sorte une sorte de trésor de techniques qu'au cours des siècles, au cours des millénaires, les Indiens ont raffiné pour justement donner à la fois une lecture très précise et des outils très précis et très pragmatiques pour que chaque être humain puisse modifier son kaléidoscope énergétique de manière à atteindre les buts qu'il se fixe par rapport aux quatre buts de la vie dont on vient de parler.
Oui, mais d'ailleurs, moi, le moksha, en fait, ça a beaucoup résonné quand tu en as parlé, puisque justement, le jyotish, cette science de la lumière, j'ai l'impression que c'est aussi une façon de mettre en lumière, puisque moksha, en fait, cette libération, c'est aussi une libération du voile de l'illusion, de Maya. Donc, c'est comme si, en fait, on mettait de la lumière pour pouvoir voir, en fait, revenir à soi et revenir à sa lumière intérieure, se connecter, en fait, à sa part de divin, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Est-ce que le jyotish, c'est pas aussi justement se reconnecter à la lumière en soi en se connectant en fait aux énergies de l'univers, aux énergies des planètes, en faisant une correspondance entre notre anatomie énergétique et celle de l'univers?
Tout à fait. En fait, j'ai l'habitude de plaisanter avec mes clients quand je tiche. L'intérêt de l'astrologue éthique, c'est de ne jamais revoir son client. C'est-à-dire que si vraiment la consultation se passe bien et que la personne met en place les outils dont elle a besoin, il y a une ouverture du troisième œil, de l'intuition, du canal intuitif, de ce qu'on appelle en astrologie concrètement la neuvième maison, qui est bien sûr le maître extérieur. On a peut-être chacun d'entre nous besoin de mentor ou de gourou, comme on dit en Inde, mais gourou justement en sanskrit veut dire celui qui écarte les ténèbres, celui qui écarte la confusion et l'illusion, comme tu viens de le décrire. Mais il y a surtout le maître intérieur, dont par exemple, classiquement, dans l'astrologie ancienne, Jupiter, son nom sanskrit, c'est Guru, représente non pas la lumière solaire telle qu'on le voit entre le jour et la nuit, mais la lumière spirituelle, la capacité d'un individu à trouver sa propre sagesse. Par rapport à ça, c'est très précis dans le thème astral, tu as parlé d'obscurité, d'illusion, les nœuds lunaires, tels qu'on les appelle en Occident, qui s'appellent en Inde Rahu et Ketu, les points des éclipses. Les points des éclipses représentent en Inde le karma ou encore la kundalini, c'est-à-dire représentent ces parties de nous qui nous bloquent, on pourrait dire nos contradictions, nos désirs, notre tendance à soit l'autodestruction, soit, on va dire de manière humoristique, la tendance à se prendre les pieds dans le tapis. Eh bien, justement, ça, c'est très précis. Je pense qu'une des choses les plus précieuses qu'une lecture de thème védique puisse donner, c'est de faire comprendre à chaque personne la transformation karmique que chacun d'entre nous a à faire au cours d'une vie, qui n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre en un claquement de doigts parce que c'est très profond. Mais justement, si la personne va dans le sens de sa transformation karmique, il y a vraiment l'idée dans l'astrologie védique que tout commence à aller dans le sens que j'ai envie de donner à mon existence. En revanche, quelqu'un qui reste dans son cocon, qui reste dans la zone de confort telle qu'on le dit aujourd'hui, alors c'est très difficile, parce que la manière de penser de l'Inde, c'est que c'est très difficile de changer les gens, c'est très difficile de changer les circonstances, c'est très difficile de changer le monde externe. En revanche, si je change mon énergie et mon kaléidoscope interne, eh bien, la vie entière change, parce que finalement, la vie n'est que le reflet de mon équilibre énergétique ou de mon déséquilibre énergétique.
Oui.
Et pour compléter par rapport à ce que tu as dit, il y a aussi vraiment l'idée par rapport au thème védique de la position de la Lune. La Lune, cette fois-ci, représente la destinée. Et on peut lire véritablement vers quel domaine, que ce soit domaine professionnel, que ce soit domaine personnel, vers quelle destinée une personne est amenée. Je vais prendre un exemple très concret. La 12e maison dans l'astrologie védique représente les pays étrangers, en dehors du pays de naissance. Je vois classiquement dans mes lectures de thème que quelqu'un dont la Lune est placée dans la 12e maison à la naissance, en astrologie védique, c'est quelqu'un dont la destinée va l'amener à sortir du pays de naissance. Au contraire, quand je parle à des personnes qui ont cette position-là et qui me disent oh, « Depuis l'âge de 18-20 ans, j'ai envie d'aller vivre à l'étranger. » Mais ça n'a pas eu lieu. Eh bien, il y a une partie de la destinée qui, en quelque sorte, reste cachée comme dans un tiroir tant que la personne refuse de plonger dans la rivière et de laisser cette chose-là l'attirer vers la direction qui est prévue à la naissance.
Oui, donc d'où l'intérêt de sortir quand même un peu de sa zone de confort, quand il y a vraiment un désir intérieur en fait de s'écouter et de prendre le risque un peu.
Oui, c'est même très précis dans le sens où dans l'astrologie védique, il est normal jusqu'à 30-35 ans de fonctionner avec cette zone de confort, puisque quelque part la zone de confort, c'est ce qui permet de créer une sécurité, une première réussite matérielle, de créer éventuellement un début de carrière ou de vie professionnelle. Mais ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, littéralement, dans l'astrologie védique, c'est l'idée que surtout entre à partir de 42, 43, 44 ans et jusqu'à 55 ans, notre travail, littéralement, c'est de dénouer, c'est-à-dire le nœud que nous portons en nous, parce qu'une autre image qu'utilise beaucoup l'Inde, c'est le serpent, le serpent du temps ou le serpent de la Kundalini. Et il y a l'idée que littéralement, le nœud lunaire sud qu'on appelle Ketu en Inde représente ce que nous avons accompli et développé dans une vie passée. C'est très bien, c'est la queue du serpent, la zone de confort. Et puis, il y a la tête du serpent qui représente cette partie de nous que nous voulons mettre au monde, mais que précisément nous avons laissé dans un tiroir dans une vie passée, et il va falloir travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dénouer ce nœud. Donc, représentez-vous un peu un serpent avec un nœud. À un moment donné, chacun d'entre nous, évidemment, de personne à personne, les conditions, la partie exactement sur laquelle il va falloir travailler ou le timing de ce travail très profond à l'intérieur de soi va être différente. Mais personne n'y échappe. Donc, c'est un petit peu rassurant de savoir que même si on est tous très différents, que ce soit au niveau du statut social et de la profession, du point de vue de l'énergie planétaire, on a tous un chantier à accomplir et on est tous sur un pied d'égalité par rapport à ça.
Ouais. Ah, y a beaucoup de questions qui me viennent, du coup c'est terrible. Parce que en fait, ce que je vois aussi par rapport à tout ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression en fait que le jyotish pourrait être en fait un outil préventif aussi, un complémentaire de l'ayurveda, parce que si en fait on arrive à avoir des indications sur donc le dharma, la mission de vie ou en tout cas le chemin, et aussi le karma, en fait, puisque quand on a des troubles en fait dans le corps, en fait en ayurveda c'est le résultat en fait de troubles de l'esprit, en fait on passe par le corps pour soigner l'esprit en réalité. Ce que je me dis, c'est que comme on travaille beaucoup sur des sphères subtiles en fait avec le jyotish, est-ce que justement on pourrait pas régler aussi en fait en utilisant l'ayurveda en plus bien sûr, mais tout ce qui va se manifester en fait, qui est en train en fait de se manifester potentiellement dans le corps, en le lisant déjà en fait dans le thème natal, en le lisant en fait avec une cartographie des planètes, et puis peut-être potentiellement aussi avoir un impact sur tout ce qui est karmique, parce qu'en fait, moi en tout cas dans la pratique que j'ai de l'ayurveda et ce que j'ai appris, il y a des troubles en fait qu'on peut pas résoudre en ayurveda parce que ils ont une fonction karmique et qu'ils ont un intérêt en fait aussi dans l'incarnation de la personne. Ça fait peut-être beaucoup de questions en une là, mais c'est tout ce qui me passe par la tête. Hein. Je me demande en fait ce que le jyotish, ce que l'astrologie védique peut apporter pour ça. Est-ce que c'est une véritable astrologie médicale en fait?
Alors là, c'est bien parce que tu décris en quelque sorte un peu mon parcours. C'est-à-dire que moi, au départ, je suis quelqu'un qui d'abord a rencontré la maladie au milieu de la vie. Je viens d'une famille de médecins. Personne ne pouvait m'aider avec les troubles de santé que je rencontrais. Je me suis d'abord intéressé à la médecine chinoise pour me guérir. Et ensuite, j'ai découvert l'Ayurveda qui a tellement bien marché qu'après, j'ai décidé de sauter le pas et d'en faire ma profession. Et comme tu l'as dit en introduction, d'aller me former avec Dr Vasant Lad, qui à l'époque, on parle des années 2000-2001, était une des seules personnes qui arrivait déjà à former les Occidentaux à l'époque de manière vraiment professionnelle et clinique. Mais ce qui m'a tout de suite étonné, c'est quand je le voyais examiner des patients, je voyais qu'il arrivait à dire des choses sur les personnes dont je savais très bien qu'on ne peut pas trouver ça dans le pouls. Et je voyais que quand il faisait passer les patients devant nous à la clinique, il prenait le pouls et en même temps, il regardait sur un petit papier, à l'époque, il n'y avait pas les programmes par ordinateur encore, le thème astral de la personne. Mmh. Et là, j'ai tout de suite compris que, ah, évidemment, comment est-ce qu'il arrive à mettre en rapport la situation personnelle, familiale de la personne et ce qui se passe dans le corps, c'est via le langage planétaire. Donc, bien évidemment, il en est ainsi, c'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de dire les planètes ne peuvent pas vous appeler sur votre portable. Et en même temps, elles ont des messages à vous faire passer. Exemple, Saturne, en astrologie, c'est le contrôleur de la destinée. On va dire, lui, c'est vraiment le bad guy, le héros difficile de votre film, puisque son travail, c'est de faire ressortir les blocages et de nous donner des obstacles et des difficultés qui font ressortir des ressources de volonté intérieure que on ne soupçonnait pas à l'intérieur de nous. Comment est-ce que Saturne fonctionne ? Ben, par exemple, en vous donnant de la douleur sur certaines zones classiques, comme par exemple les lombaires, le bas du dos. Mmh. J'ai l'habitude de dire à mes patients, vous savez quoi ? Votre bas du dos, votre mal de dos lombaire ou lumbago sciatique disparaîtra quand vous aurez accepté quoi ? Eh ben, de vider le sac à dos de responsabilité que vous portez avec vous ou l'accumulation de responsabilités ou de choses qui ne portent pas votre croissance. Donc, c'est le langage, en quelque sorte, de Saturne que nous affecter via le mal de dos pour nous faire changer et changer notre destinée. Mais tu as bien résumé l'idée qu'en fait, on peut appliquer cette règle à toutes les planètes. Donc, il y a, quand j'ai dit tout à l'heure que ce sont deux sœurs, l'Ayurveda et le Jyotish, on pourrait presque dire que à mi-chemin, il y a une troisième entité qui s'est développée, qui est l'Ayurjyotish, c'est-à-dire l'astrologie médicale, c'est-à-dire que on peut totalement étudier la santé de la personne via le thème astral. C'est particulièrement important quand on a affaire à des maladies difficiles ou longues, parce que quand un praticien en Ayurveda traite une maladie comme un cancer, c'est très important de savoir si la personne commence cette maladie alors qu'elle est dans une période planétaire bénéfique ou dans une période planétaire difficile. L'astrologie védique a beaucoup développé l'idée d'un timing de vie qui est très précis pour chacun d'entre nous. Donc l'évolution à long terme d'une maladie chronique, elle peut être vue via l'astrologie médicale. Et puis les causes, les sources véritables d'un déséquilibre sont reflétés dans les positions des planètes, parce que chaque planète correspond à un organe, un tissu, une partie de notre corps physique. Une fois de plus, en exemple, quand je vois des personnes qui parfois me disent « oui, j'ai beaucoup de toxines et je pense que ça vient de mon intestin ». Et puis, je vais regarder la position de la même planète dont on parlait tout à l'heure, Jupiter, qui représente le foie. Chaque planète à une partie du ciel où elle devient plus sensible ou plus forte. Quand Jupiter est placé en Capricorne, le foie est faible dès la naissance. Et si je vois une personne qui a Jupiter en Capricorne, je sais, en tant que praticien d'Ayurveda, non, la source, la faiblesse inhérente de cette personne qui permet l'accumulation de toxines est dans le foie, pas dans les intestins. Donc, il y a quelque chose qui permet à la fois un diagnostic très précis, et puis évidemment, en mettant ensemble la maladie que développe cette personne et puis ce qui se passe dans sa vie, comme tu l'as très bien dit, dans beaucoup de cas, la maladie, le burn-out ou le déséquilibre de santé nous est donné finalement comme une chance dans des grandes périodes de transformation. Et ça nous permet en quelque sorte d'avoir un GPS interne qui nous dit que ce n'est pas très compliqué de savoir que nous allons dans la bonne direction pour ce qui est de notre destinée, puisque notre corps va le refléter dans sa guérison, dans son énergie et dans sa santé.
Oui, non, ça c'est très juste en fait. C'est souvent ce que je dis d'ailleurs en consultation, c'est que le corps nous parle et qu'il sait. En fait, il sait avant la tête. En tout cas, quand je dis avant la tête, je parle bien du mental. Il est vraiment là pour nous passer des messages. Et en fait, mieux on se connecte à son corps et plus c'est facile, parce qu'on arrive à savoir en fait ce qui est bon pour soi ou pas, même pour prendre des décisions. Maintenant, c'est vrai qu'en Inde, du coup, il y a énormément de décisions qui sont prises quand même avec le Jyotish. Moi, de ce que j'avais vu, on étudiait les jours de naissance en fait de son enfant à venir. On se disait qu'il valait mieux accoucher tel ou tel jour, se marier tel ou tel jour. Il y avait plein de choses en fait qui étaient basées vraiment aussi sur l'influence des planètes. Et puis même j'ai entendu souvent en fait que dans le temps en fait au début, enfin quand on pratiquait vraiment l'Ayurveda et le Jyotish de façon extensive et que c'est, enfin bien avant en fait la colonisation anglaise, on disait aussi qu'un roi sans astrologue, par exemple, c'était comme un enfant sans père. Donc, il y a quand même quelque chose de très puissant, en fait, sur l'impact des planètes et puis l'interaction qu'on peut avoir, en fait, avec l'univers dans la culture indienne.
C'est resté et c'est encore présent, dans le sens où, par exemple, un exemple historique fameux, c'est que, justement, tu parles de la colonisation par les Anglais, au moment de l'indépendance de l'Inde, donc il y a eu la partition entre l'Inde et le Pakistan, et les Anglais avaient choisi donc le même jour pour l'établissement de l'État de l'Inde et l'État du Pakistan. En astrologie védique, la création d'un pays, comme d'ailleurs la création d'une entreprise, c'est comme un bébé. La date et la carte du ciel au moment où on édifie cette chose va conditionner la destinée. Et Nehru, qui le premier ministre indien, qui était bien formé en astrologie et qui avait son astrologue personnel, a dit non, pas question. Le Pakistan, vous gardez ce jour, mais nous, ça sera 48 heures plus tard. Ouais. Alors, avec le temps, on peut regarder la destinée très différente, effectivement, des deux pays. Et ça montre bien, comme tu dis, à quel point c'est très profond à l'intérieur de la culture indienne. En fait, quand on connaît le Jyotish, et qu'ensuite qu'on va en Inde, il y a plein de choses qui s'expliquent. Pourquoi les gens font telle cérémonie tel jour? Mais pourquoi est-ce que c'est pas le même jour que l'an dernier? Je croyais que c'était le 21 mars, cette année ça a changé. Ça, c'est parce que tout s'explique par l'astrologie. Mais en fait, ça, c'était autrefois présent, même dans notre langage, c'est resté, puisque les Romains, les Grecs nous ont laissé un système dans lequel le lundi, c'est le jour de la Lune, mardi, c'est le jour de Mars, mercredi, c'est Mercure, jeudi, c'est Jupiter, vendredi, c'est Vénus, Saturne, c'est le samedi, et le dimanche a été changé, mais en anglais, c'est resté Sunday, le dimanche. Effectivement, c'est vrai que moi, ma profession, évidemment, elle est différente si je pratiquais en Inde ou si je pratique en Occident. En Inde, le pain quotidien du Jyotishi, de l'astrologue védique, c'est ce qu'on appelle prashna et muhurta. Prashna, c'est une décision, c'est-à-dire quelqu'un vient me voir avec une décision très pratique. Est-ce que je dois acheter mon appartement maintenant ou l'an prochain ? Et on répond à cette question par rapport à la carte du ciel au moment où la personne vient voir l'astrologue. Muhurta, c'est le choix d'une date, comme par exemple, effectivement, le choix d'un mariage. Mais pour toutes les étapes importantes de notre vie, la conception du Jyotish, c'est que on maximise jusqu'à 50% des chances de réussite si on choisit le jour approprié. On pourrait dire à l'inverse, deux personnes qui sont parfaitement faites l'une pour l'autre mais qui se marient le mauvais jour vont réduire les chances d'avoir une relation qui dure dans le temps. Mais en même temps, bien sûr, l'essence de la relation à l'astrologie est différente en Inde et en Occident. Et dire la première question qu'un Indien pose à un Jyotishi, c'est combien de temps il me reste.
Ouais, ouais, ouais.
Personne, quasiment personne, ne me pose cette question en Occident. Je dis quasiment personne parce qu'en même temps, il y a un autre élément qui est très intéressant dans la manière classique du jyoti, c'est l'idée que ce n'est pas juste le cerveau de l'astrologue. Tout ça, c'est lié à la réalité. C'est-à-dire, on dit qu'autrefois, les astrologues védiques, ils ne regardaient pas tellement le thème, ils allaient à pied chez leurs clients et en observant les signes de la nature en route, ils avaient toutes les réponses. Donc, il y a vraiment l'idée aussi qu'avec la science de la lumière, on rentre dans une dimension dans laquelle c'est à la fois l'astrologie et l'univers qui vient donner des réponses à la personne dans son cheminement. Ça, je le vois de manière quotidienne. Et en fait, au moment même où nous sommes en train de parler, Gonaël, j'en ai la preuve. Puisque je viens de dire quasiment personne en Occident ne me demande de calculer la longévité, sauf que juste au moment où je parle, un petit email s'est affiché sur mon écran, justement d'une personne qui me demande de calculer quand est-ce que son père risque de partir.
Ah ouais.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle un nimiti, c'est-à-dire en Inde, une coïncidence significative qui oriente le travail de l'astrologue. Ça peut être des signes d'animaux, ça peut être des coïncidences. Et ça, c'est en quelque sorte ni la personne qui le crée, ni l'astrologue. C'est la réponse de l'univers à la question, la demande que pose une personne. Donc, il y a vraiment dans cette idée de science de la lumière l'idée que nous sommes guidés quand nous allons dans notre destinée, quand nous sommes prêts à bouger. Toute la dimension autour de nous va nous soutenir dans cette transformation.
Ouais, il y a une fluidité en fait qui se met en place aussi, je pense. Mais justement, alors d'un point de vue vraiment concret, puisque là on va arriver vraiment à la fin de l'émission, malheureusement, on pourrait en parler encore pendant des heures. C'est passionnant. Moi, j'aurais adoré faire le lien entre les planètes, les doshas, les chakras, les parties du corps. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Mais ça, c'est des choses qu'on pourra en fait voir avec toi en prenant rendez-vous avec toi pour une consultation. Comment ça se passe en fait concrètement une consultation? Et puis quels sont les outils justement que le jyotish propose pour pouvoir reprendre en main sa destinée?
Alors concrètement, une lecture de thème védique, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le premier but c'est de bien comprendre la destinée, le dharma de la personne. Deuxièmement, de diagnostiquer les blocages karmiques, les blocages énergétiques ou planétaires, de comprendre également le timing de vie précis que chaque personne porte avec elle, parce qu'il ne suffit pas de vouloir faire la bonne chose, il faut la faire au bon moment. Et un dernier outil que j'ai intégré dans ma pratique, c'est aussi ce qu'on appelle l'astrocartographie, c'est-à-dire l'idée que les énergies de notre corps planétaire ont des correspondances avec des lieux. Il y a des lieux porteurs et il y a des lieux qui le sont moins pour ce commun à accomplir dans la vie. Donc, on passe tout cela en revue avec l'idée, évidemment, après de déboucher sur un travail personnel avec des outils. Et les outils, on peut travailler sur les énergies planétaires, pour faire simple, avec de la lumière, c'est-à-dire par exemple avec de la chromothérapie ou de la lithothérapie, avec les pierres, avec les minéraux. Mais justement, si vous portez une pierre qui n'est pas la bonne pierre pour vous, vous risquez peut-être, sans le savoir, de renforcer une énergie qui n'est pas une énergie qui vous aide. Mmh. On utilise beaucoup en Inde, c'est aussi l'idée de changer les énergies planétaires via la mantra-thérapie ou la thérapie par le son thérapeutique. Je crois que tu as parlé récemment dans une émission de ces outils.
Exactement.
Et puis, il y a aussi l'idée que ce qu'on appelle le karma yoga, c'est-à-dire l'idée que si je veux me connecter à une certaine planète, je peux aller faire une action karma qui va aller se connecter à certaines personnes. Par exemple, chaque planète est connectée dans la dimension humaine à certains êtres. Jupiter est connecté aux enfants. Je vais donner un exemple très pratique. Jupiter, c'est aussi la capacité d'un individu à avoir des enfants ou le karma pour avoir des enfants. Il y a quelque temps, j'avais eu une personne dont je regardais le thème en disant: bon, monsieur, dans cette vie, vous n'avez pas réussi à avoir d'enfants, puisque la position de Jupiter était très faible. Il me répond: ah, pas du tout, monsieur, j'ai deux enfants et quatre petits-enfants. Alors, je lui réponds, écoutez, monsieur, soit votre heure de naissance est fausse, soit vous faites quelque chose dans votre temps libre auquel je suis très intéressé. Il me répond, bah oui, en fait, j'ai une association qui aide 5000 enfants en Inde. La conclusion de ça, c'est que par une action ciblée spécifique, cette personne avait complètement changé les indications énergétiques qui étaient présentes à sa naissance, à savoir pas de possibilité d'avoir des enfants. Donc, c'est vraiment ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Il y a à la fois un kaléidoscope que nous portons entre nous, mais nous sommes comme un Rubik's Cube. On peut changer avec une action et avec des remèdes énergétiques la quantité ou la répartition des énergies à l'intérieur de nous, évidemment, pour bien cibler ce travail et pour avoir les bons outils dans la bonne direction. C'est là que la présence du Jyotishi, la vocation d'être astrologue védique, c'est de pouvoir orienter une personne dans toute cette information qui peut devenir excessive. Et j'ai l'habitude de dire, pour atteindre la bonne cible, il faut la bonne flèche. Moi, je suis là pour donner des flèches pour atteindre les cibles.
Mmh. Non, mais ça, c'est clair que bah, du coup, c'est vraiment passionnant, vraiment, mes pépites. Si vous souhaitez approfondir, en savoir plus sur vous, mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie, le pourquoi du comment, et puis aussi avec tous ces outils en fait, que Raphaël vient d'exposer, moi, j'ai expérimenté hein, personnellement l'astrocartographie. C'est un truc que j'ai trouvé génial de voir d'ailleurs que quasiment toutes mes lignes énergétiques passaient par l'Inde. C'est impressionnant. Ça donne en fait beaucoup d'éclairage en fait. Ça permet en fait d'avancer plus sereinement, et puis ça donne aussi de l'espoir quand on voit qu'il y a des choses en fait qui sont complètement bloquées, qu'on a essayé plein de choses et qu'on ne sait pas pourquoi. Moi-même, je le vois en consultation hein, quand j'accompagne des gens. Des fois, on essaye plein de choses et ça ne fonctionne pas. Heureusement, c'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Et dans ces cas-là, je pense que l'astrologie védique, donc le Jyotish, peut vraiment apporter quelque chose. Donc, n'hésitez pas en tout cas à contacter Raphaël. Vous avez toutes les informations de contact dans le descriptif, dans la description de l'émission, comme toujours. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs, Raphaël, pour terminer cette émission ?
Deux choses. D'abord, pour celles de nos auditeurs qui seraient déjà thérapeutes, quel que soit d'ailleurs, pas seulement l'Ayurveda, mais le type de thérapie ou de pratique de médecine alternative ou énergétique, justement à partir du mois d'octobre, je vais commencer à proposer une formation en Ayurjyotish, en astrologie médicale, qui a pour but justement d'apprendre à des praticiens en médecine alternative, à utiliser le thème Jyotish pour diagnostiquer, comprendre plus en profondeur la personne. Ça aura lieu, c'est organisé par l'école d'Ayurveda d'une collègue et amie, Sandra Hoche, qui a justement l'école Veda, www.écoleveda.com. Ça devait déjà avoir lieu au printemps, mais évidemment, avec le confinement, ça a été reporté à l'automne et les dates sont sur le site web. Et puis, concrètement, pour aller dans le monde qui nous entoure, un conseil très pratique, on voit tous en ce moment ce qui se passe avec la crise de violence aux États-Unis. Évidemment qu'il y a une correspondance astrologique. Saturne représente l'ordre établi, la structure qui nous est imposée. Quand Saturne est rétrograde, surtout en Capricorne, ce qui n'arrive que tous les 30 ans, on voit dans le monde humain que des gens opprimés refusent de continuer à subir cette oppression. La dernière fois qu'on a eu cette position dans l'astrologie mondiale, c'était il y a 30 ans, c'était le mur de Berlin qui s'est effondré et la révolte contre des États totalitaires. La même chose est en train de se passer à l'heure actuelle depuis le 23 mai jusqu'à début octobre. Je dirais en même temps que c'est nécessaire, chacun d'entre nous, de se protéger par rapport à une énergie qui peut être difficile, qui peut créer beaucoup de stress. Donc, le jour de Saturne, c'est samedi. Je conseille à tout le monde de lever le pied le samedi, ne pas trop regarder la télé, pas trop s'informer de trop de choses qui pourraient être stressantes. Et dans les 4 mois à venir, le samedi, c'est un jour de purification, c'est un jour pour faire son yoga ou sa pratique personnelle, sa méditation, son nettoyage, son jeûne, un jour de travail sur soi, parce qu'on a tous une énergie saturnienne qui correspond justement au premier chakra quand tu parlais de la correspondance, et que pour éviter les peurs qui nous entourent, les peurs économiques, les peurs de lendemain, les peurs de violence, etc., eh ben, débranchons tous le samedi, restons bien tranquilles et faisons autant qu'on peut un nettoyage intérieur qui nous permet de surfer sur la vague. Voilà.
Ok, bah, un bon conseil du coup hein, pour les mois à venir, en tout cas mes pépites, voilà. Pratiquer le yoga, l'ancrage et puis pas trop travailler. Bon, oui, Raphaël, tu...
Exactement, ne pas se disperser également le samedi, parce que Saturne a horreur de la dispersion, donc c'est bien ce jour-là de se concentrer, de faire une sorte de Shabbat personnel. Je me suis toujours demandé si dans certaines religions, pourquoi avoir choisi ce jour, peut-être qu'il y a des raisons astrologiques, mais c'est particulièrement précieux dans certains moments que de respecter cette règle-là.
Bon, en tout cas, vraiment, encore une fois, mes pépites, si vous souhaitez approfondir le Jyotish, prenez rendez-vous avec Raphaël. Toutes les informations de contact sont dans la description de l'émission, je le répète. Raphaël consulte à distance, hein, donc par Skype, Zoom, etc. Donc, où que vous soyez dans le monde, c'est possible. Il est aussi bilingue, voire peut-être plus que bilingue d'ailleurs, anglais, français et peut-être autre chose, Raphaël ?
Je comprends bien l'allemand et l'italien. De là à pouvoir expliquer totalement, on va dire que je fais parfois des consultations en Italie et en Allemagne avec une tierce personne qui accompagne la cliente au cas où il y aurait des termes un petit peu trop complexes. Mais pour ce qui est de l'anglais, effectivement, ayant vécu 11 ans aux États-Unis, je suis totalement bilingue.
Bah voilà, donc du coup, le champ de tous les possibles s'ouvre à vous, mes chères pépites. N'hésitez pas. Et bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus sur l'Ayurveda, vous pouvez évidemment me suivre, hein, bien sûr, sur mon site www.mihira-ayurveda.com. Mihira, c'est M-I-H-I-R-A. Également sur les réseaux, donc sous Mihira Ayurveda. Vous pouvez également vous procurer mon livre en version papier ou en version audio, l'Ayurveda Sourire, quand la joie du cœur et la santé du corps, aux éditions Marie-Claire. Merci beaucoup, Raphaël, pour cet échange vraiment très riche. J'aurais adoré pouvoir parler encore et encore. Il y a tellement de choses, en fait, que j'aurais aimé partager, en fait, avec nos auditeurs, mais malheureusement, le temps est contre nous. Merci pour tout ça, pour toutes ces informations.
Merci Gwenaëlle, c'est vrai qu'avec le Jyotish, on rentre dans aussi une autre notion du temps.
Oui.
Et malheureusement, parfois, le temps passe trop vite quand on commence à parler de choses passionnantes.
C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, mes pépites, pour votre attention. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous envoie une myriade de sourires. Et surtout, rappelez-vous que la joie du cœur est la santé du corps. À très bientôt.
L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Battard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.